On a pris un peu de retard, mais c'est pas grave. On est content de le retrouver du podcast Processus. Martin Thériault, salut!
Hey, Marty, comment
Marty?
Ça va? Ça va bien, les gars. Ça va bien, vous autres, les gars?
Ouais, ça va super bien, Marty. On est content de t'avoir avec nous aujourd'hui parce qu'hier, en action dans le tournoi éliminatoire de la NCAA, du tournoi Big Ten, Michael Hage était là pour Michigan. Disons que ça s'est bien passé avec une performance de 4 mentions d'aide.
Ouais, absolument. Puis, tu sais, je pense que dans le cas de Michael Hage, on se répète un petit peu là, dans les dernières semaines. C'est que, tu sais, on voit que c'est un peu trop facile. On voit qu'il est maintenant prêt pour la LNH et tout ça. Bien honnêtement, il méritait peut-être moins de points que 4 aides. Là. Il a quand même été chanceux sur 2 d'entre elles. Là. Il y en a une, c'est une passe un peu ratée. C'est transformé en revirement et tout ça. Sa 4e aide, c'est venu sur un but dans un filet désert. Donc, mais ce que je retiens de Michael Hage, c'est vraiment ça. La vitesse a toujours été un élément important dans son jeu. Mais là, tu le regardes et il est ailleurs. Et ça lui permet d'avoir plus de séparation avec les joueurs adverses, les défenses adverses. Il est capable de créer des jeux. Écoute, j'ai vu 3 ou 4 séquences là, où il s'est mis à déborder 3 ou 4 joueurs adverses. Puis c'est pas simplement du entre guillemets du stuff de junior. Là. C'est habile, c'est impressionnant. Donc vraiment, vraiment, là, tu vois qu'il c'est le meilleur joueur de Michigan. C'est lui qui prend les choses en main. Puis c'est très impressionnant.
Marty, c'est pas tout le monde qui est familier avec le système, le format, comment ça fonctionne exactement dans la NCAA. C'est quoi la suite des choses là, pour Michigan? Comment ça fonctionne? Quand est-ce qu'on revoit Gavin McKinnon, là, je brûle les punches, mais quand est-ce qu'on revoit Michael Hage en action? C'est quoi la suite des choses?
Bon, pour comprendre un peu le tournoi éliminatoire de la NCAA, comment ça fonctionne, t'as 16 équipes, c'est comme le March Madness au basketball, si tu veux. On prend là-dedans les 6 champions de division. Là, en ce moment, ce que Michael Hage a commencé, c'est le tournoi éliminatoire de la division Big Ten. La division Big Ten, c'est la division de Michigan, de Penn State également, de Gavin McKenna et tout ça.
C'est la grosse division.
T'as les 6 champions. Par la suite, t'as 10 équipes qui sont prises essentiellement, là, sauf de très rares exceptions, selon le classement national aux États-Unis de la NCAA au hockey. Michigan est premier, donc c'est sûr à 1000% qu'on va prendre Michigan, même si Michigan devait perdre à un moment donné dans les séries du Big Ten et tout ça, c'est sûr qu'ils vont être là. Ce qui serait plus compliqué si c'était une équipe, disons, classée 11e ou 12e, parce que là, ils devraient espérer qu'il y ait des gagnants de section. Cela dit, dans le cas de Michael Hage, donc si on parle du tournoi éliminatoire, les deux premiers tours sont du 27 au 29 mars. Donc, disons qu'on est classé d'une certaine façon et qu'on doit jouer un match le 27 mars et que Michigan s'inclinait. Là, évidemment, pas le 27, mais le lendemain, peut-être le 28, là, c'est là qu'on pourra avoir le compte à rebours de dire « OK, Michael Hage pourrait s'amener avec les Canadiens. » Mais s'il gagne les 2 premiers tours du tournoi de la NCAA, là, il va au Frozen Four. Et le Frozen Four, c'est le 9 et le 11 avril, ce qui là l'amènerait pas mal plus vers la fin de la saison régulière. Là, en fait, il resterait dans le meilleur des cas 3 matchs seulement. Là,
Fait qu'effectivement, c'est là qu'on va surveiller à quel moment Michael Hage pourrait signer. Puis on espère que ça se passe bien parce que des joueurs qui performent et qui élèvent leur jeu d'un cran quand ça compte en série, c'est ça qu'on veut.
C'est ça que tu veux, ben oui.
Exact. Absolument. Là, tu as mentionné Michael Hage, qui on le verra pas de sitôt rejoindre l'organisation officiellement du Canadien avec un contrat. Mais il y en a un, par contre, qui pourrait se rejoindre bientôt au Rocket de Laval.
Ouais, bon, le scénario que j'expliquais, là, c'est, bon, quand je parlais des 10 meilleures équipes et tout ça, les Gophers du Minnesota avec LJ Moody, mais surtout Luke Middlestad, eux ne sont pas dans le top 10, ils sont même pas proches. C'est sûr qu'ils sont éliminés, c'est sûr que c'est terminé. Donc, attendez-vous dans les prochaines heures, ça va peut-être même se passer aujourd'hui ou peu importe, là, Luke Middlestad, qui, selon notre collègue de processus Marco D'Amico, les Canadiens étaient intéressés de l'amener à Laval l'an dernier. C'est lui qui a décidé de demeurer une 4e saison dans la NCAA. Donc, mais il a un intérêt vraiment de s'entendre avec l'équipe. Donc, moi, je pense que ce qui va arriver, c'est ce que je l'ai dit, soit aujourd'hui ou dans les prochains jours, Middlestad va s'amener avec le Rocket. Puis, on se le cachera pas là, du côté du Rocket. Ça va être un ajout qui va être plus que le bienvenu là, avec les Josa Didier, les Toby Paquette-Bisson, les Adam Engström qui sont présentement blessés. Et c'est un défenseur droitier, Luke Middlestad. Là, ça va faire énormément de bien à la
brigade. C'est pas un défenseur gaucher, Marty? Je suis pas mal sûr qu'il est gaucher.
Probablement qu'il est gaucher. Je serais mon genre de me tromper.
Non, il est gaucher, Luke Middlestad.
Ouais, il est gaucher.
Mais, fait que là, dans le
mais
fond...
c'est parfait parce que les gars que tu viens de nommer, Marty, sont tous gauchers. Fait que ça fait bien. À part Didier, par contre. Didier est droitier. Mais quand même, Middlestat, c'est intéressant parce que attendez-vous à une signature probablement là, d'un contrat de la Ligue américaine là, pour terminer la saison. Là. Ça ne sera pas un contrat en bonne et due forme de la Ligue nationale maintenant pour Luke Middlestat. Ça va être intéressant parce que je pense que le Rocket a du temps de glace à donner à un gars comme ça pour la fin de la saison.
Peux-tu nous le décrire un peu, Marty? C'est quel genre de joueur pour ceux qui se le demandent, là, c'est le frère de Casey. Hein. C'est vraiment son frère, ouais. Casey Middlestad. Il est comment, Luke Middlestad, dans son style de jeu?
C'est un défenseur très complet. Moi, j'aime beaucoup sa touche offensive. J'aime le fait qu'il est quand même capable de relancer l'attaque. C'est un gars qui est intelligent, va vraiment trouver les bonnes options, va être capable de bouger un peu les schémas aussi en zone adverse. Défensivement, ça s'est amélioré. Je trouve que c'était une faiblesse peut-être au début de sa carrière dans la NCAA, là, lorsque je le voyais, lorsqu'il était dans la USHL et tout ça. Mais ça s'est amélioré. Je trouve vraiment que c'est un défenseur très complet. C'est pas le plus imposant, donc si vous attendez d'avoir un défenseur de 6 pieds 4 pouces qui frappe tout le monde, c'est pas son style. Donc ça va être très bien de le voir avec le Rocket, et moi ce que j'ai hâte de voir, parce que j'ai toujours quand même apprécié, là, même, tu sais, les Canadiens l'ont repêché, il avait 19 ans, moi à 17 ans, je l'aimais déjà beaucoup, c'est quelqu'un que j'avais très haut dans mes listes. J'ai hâte de voir à quel point, là, une fois qu'il va être dans la Ligue américaine et qu'il soit sorti du carcan défensif de Bob Motzko, l'entraîneur-chef des Gophers, s'il est capable d'amener un peu plus d'attaque. Donc, tu sais, tu vois, ces statistiques, tu vas dire, qu'est-ce que tu dis là avec le jeu offensif? Mais c'est vraiment qu'il est capable de relancer. Mais je me demande si dans une autre formation avec Pascal Vincent, s'il n'est pas capable d'aller chercher une autre touche offensive.
Bon, évidemment, tu as parlé de quatrième année dans la NCAA. Tu as parlé du fait qu'il n'a pas été repêché à sa première année d'éligibilité. Fait que je compare un peu des pommes avec des oranges. Mais y a-tu des chances que LJ Monnier, lui aussi, fasse le saut en signant un contrat professionnel? Ou lui, on peut l'oublier, il va être de retour dans la NCAA l'année prochaine?
Moi, je l'oublierais, celle-là. Il n'y a jamais rien d'impossible, là, mais je veux dire, à 18 ans, et surtout avec son gabarit 5 pieds 8 pouces, il a vraiment intérêt de passer du temps dans le gymnase. Il a vraiment intérêt à prendre les séances, les journées de congé pour s'améliorer à ce niveau-là, prendre de l'expérience également, dominer peut-être un petit peu plus. Il y a eu une belle première saison avec les Gophers. Il y a eu des grosses missions. Écoute, premier trio, premier avantage numérique. On l'utilisait à des avantages numériques. Ça s'est très bien passé, mais reste que tu veux quand même qu'il prenne la coche supplémentaire. Là. Maintenant, c'est un peu plus de voir est-ce qu'il va demeurer avec les Gophers ou non. Moi, je pense que oui. Je pense qu'il a un beau rôle. Je pense que Motzko, justement, lui fait énormément confiance. Mais je sais qu'il y a de la grogne au Minnesota. Les Gophers, c'est un programme qui est très, très, très populaire. Là. C'est sûr qu'il va y avoir des changements. Je ne sais pas à quel point, mais je pense quand même que Mooney va demeurer dans la NCAA. Là.
On s'en va dans les autres espoirs, Marty. Il y a une histoire un peu abracadabrante qui circule présentement au sujet de Sacha Boisvert. Il aurait été laissé de côté. Et là, Pendolfo est sorti hier pour dire « Je dirais pas vraiment qu'il a été healthy scratch. Il était juste pas disponible ce soir. Je vais laisser ça comme ça. » On en sait-tu un peu plus sur l'ancien choix de premier tour des Blackhawks de Chicago?
Ben, silence radio pour l'instant, là, je regardais pas mal ça cette nuit et tout ça, j'ai pas rien vu de spécial. C'est sûr que lorsque tu regardes une situation comme ça, t'es dans un match éliminatoire, puis la situation que j'ai expliqué tout à l'heure, là, Boston University, la formation de Sacha Boisvert, ça va pas bien cette année. Si on se fait éliminer dans le tournoi, dans leur tournoi de leur section qui est Hockey East, c'est terminé, c'est sûr qu'on va pas au tournoi éliminatoire, il faut se concentrer sur l'an prochain. Et là, tu prends un choix de premier tour, quelqu'un que tu as quand même été capable d'attirer avec de bons arguments en provenance de North Dakota l'an dernier, et là, tu le laisses de côté, puis là, en plus, tu arrives avec une déclaration comme ça, tu l'as mentionné, Jay Pendolfo, qui a certainement rien fait pour calmer les choses.
C'est spécial.
Ça laisse penser, je veux pas être alarmiste, mais ça laisse penser qu'il y a eu quelque chose au niveau soit de l'attitude ou clairement l'entraîneur-chef ou l'équipe, il y a quelque chose qu'ils n'ont pas aimé chez Sacha Boisvert. Et là, bien évidemment, ça fait quand même deux universités en deux ans qu'il fait. Ça fait quand même en sorte que là, maintenant, il aura 20 ans. C'est un joueur très robuste, Sacha Boisvert. Il est capable peut-être de jouer dans les rangs professionnels, donc ce qui va se magasiner une troisième université en trois ans. Moi, je trouve que ça paraîtrait super mal.
Ouais, ouais. Y a-t-il des chances qu'il signe à Chicago? Parce que ça, je voyais...
Je pense que oui, moi.
D'après moi, ça, c'est une réelle possibilité. Je regardais quelques comptes Twitter hier de personnes un peu plus au fait du dossier, évidemment partisans des Blackhawks, puis ils anticipaient ça, qu'il est peut-être sur ses derniers milles là, au niveau universitaire.
Ouais, ben c'est parce que Sacha Boisvert, dans les dernières semaines, l'a confirmé lui-même. Il a dit « Moi, je pense que je suis prêt pour les rangs professionnels. Je peux atteindre ça. » Puis là, même son l'organisation des Blackhawks s'en est mêlée. On a dit « On pense qu'il est même, ça fait bizarre à dire, mais plus prêt pour les rangs professionnels que la NCAA, étant donné son style très robuste. » Et là, si justement, tu as un imbroglio dans la NCAA, tu veux pas nécessairement envoyer l'information que ben, tu es peut-être difficile à diriger tout ça.
Ouais.
Moi, j'ai l'impression que ça va être la direction Ligue américaine, va signer un contrat avec les Blackhawks et par la suite va poursuivre sa carrière un peu plus avec les Ice Hawks de Rockford dans la Ligue américaine. Là, je pense que c'est ce qui serait logique.
J'ai pas, tu vas l'aimer, Sacha Boisvert, hein, parce qu'il est capable de laisser tomber Mitaine. Puis son père, Jim DeBox, Jimmy Boisvert. Fait que, mettons que.
Ah oui, c'est lui. Ah oui,
ça,
oui.
Ouais, c'est Trifluvien de Trois-Rivières.
Oui, absolument.
Il y a ça un peu dans le sang, là, être capable de salir la
chien,
main.
Et son cousin, Thomas Boisvert, va être surveillé pour le prochain repêchage de la LHJMQ. Là, il balance entre jouer aux États-Unis ou jouer dans la LHJMQ. N'est-ce pas, Marty? Il faut surveiller Thomas Boisvert, le cousin de Sacha.
Absolument. C'est probablement un espoir top 5 là, environ pour le prochain repêchage de la LHJMQ.
Ah
là.
Oui, hein?
Plus petit en stature, mais semble-t-il, je ne l'ai pas encore vu, là, d'ailleurs c'était dans mes listes de choses à faire, là, mais semble-t-il qu'il est très talentueux. Là.
Très bon, merci beaucoup Marty, on peut te suivre évidemment sur le podcast Processus via la commission athlétique, puis toujours content de t'avoir avec nous dans le Club du matin, on se reparle bientôt Marty.
Salut Marty,
bonne journée.
Bye bye, Martin Thériault qui était avec nous, puis j'en profite au passage, vous avez envie de découvrir les podcasts, on en a plusieurs excellents ici à la station, rendez-vous sur la page YouTube de la commission athlétique, puis tant qu'à être là, vous pouvez aussi vous abonner à la page YouTube de BPM Sport. C'est gratuit et ça nous permet de continuer à grandir. Puis,
hey, désolé. Justement, parlant de YouTube, j'aimerais ça qu'on salue les gens qui sont branchés sur YouTube. C'est une journée qui est peut-être un petit peu différente pour les gens parce que plusieurs n'ont pas d'électricité là, sur la rive sud de Montréal. Un petit peu partout au Québec, il y a des pannes de courant un peu partout. Les habitudes sont peut-être brisées, peut-être un petit peu moins de gens sur la route, mais sur YouTube, il y a du monde pas à peu près ce matin. Alors, merci d'être là tout le monde, c'est super le fun.
Ah oui, on frise avec le 3000 personnes présentement sur YouTube.
Ouais.
Wow, vraiment très cool, très très le fun. OK, hier, c'était pas la soirée la plus occupée dans la Ligue nationale de hockey. On va quand même prendre le temps de regarder ça, mais on va surtout mettre la table pour ce qui s'en vient ce soir. Il y en a plusieurs excellents matchs et des bons matchs pour la course aux séries.